nouvelle n'aura surpris personne ce matin-là. On le savait malade depuis longtemps. Depuis ce jour de 1992 où il avait révélé publiquement sa maladie. De toute façon, il ne pouvait plus la cacher. Son visage pâle, son teint blafard, ses pas hésitants le trahissaient. Les chroniqueurs et tout le petit microcosme parisien prédisaient qu'il ne finirait pas son second mandat. Certains pariaient même sur la date de son décès. Les vautours volaient au-dessus de l'Élysée. Mais le vieil homme s'accroche à la vie et au pouvoir. Il tiendra jusqu'au bout pour faire taire ses détracteurs. À ses visiteurs du soir, il s'amusait à dire « Je ne leur ferai pas cadeau d'une minute, encore moins d'une heure ». Son mandat terminé, le vieil homme lâche prise, définitivement. Nous sommes le 8 janvier 1996, François Mitterrand est mort officiellement. Il est 8h30 et c'est l'heure H de notre histoire. Pour plus tard, il pleut sur Jarnac. Jarnac, ce nom ne vous dit rien, c'est normal. C'est une petite ville provinciale des Charentes, perdue au milieu des vignes. Vous ne voyez toujours pas. Bon, pour les amateurs de digestifs, Jarnac se situe à côté de Cognac. Bref, c'est là, dans quelques minutes, que Mitterrand va se faire enterrer. Si la cérémonie est retransmise à la télévision, elle est réservée à ses proches. Les officiels, les grands de ce monde, eux, se recueillent de leur côté, à Paris. L'ancien président l'avait écrit dans son testament avant de mourir. Une messe pourra être dite. Jusqu'au bout, François Mitterrand, qui avait quitté ses fonctions quelques mois plus tôt, reste ambigu. Mitterrand, qui entretenait une relation particulière avec la religion catholique, n'aura pas le droit à une messe, mais à deux, rien que ça. Pendant que sa famille lui dit au revoir sur les terres qui l'ont vu naître, le 26 octobre 1916, une seconde messe se tient dans la cathédrale Notre-Dame à Paris. 1300 personnes assistent à la cérémonie. Et pas n'importe qui, le gratin. Les anonymes, nombreux, eux, ne peuvent pas rentrer dans la cathédrale. À l'intérieur, les hommes les plus influents du monde sont là, à commencer par Helmut Kohl, le chancelier allemand, l'ami de longue date. Le géant allemand ne peut retenir les larmes qui coulent lentement sur ses joues. Les caméras de télévision immortalisent cet instant avec un plan semblant durer une éternité. La douleur du chancelier n'est pas feinte. Bien plus qu'un partenaire politique, Helmut Kohl a perdu un intime. À cet instant, il se souvient certainement du moment où lui et Mitterrand s'étaient donné la main à Verdun, le 22 septembre 1984, devant l'ossuaire de Douaumont, au Centre mondial de la paix. Un geste spontané du président français qui scella leur amitié. Retournons quelques instants à l'intérieur de la cathédrale. À l'exception du président américain, tous les grands de ce monde se retrouvent pour célébrer sa mémoire. Ils sont 61 chefs d'État et de gouvernement à écouter la messe et les chants de Barbara Hendricks. Parmi eux, Yasser Arafat, le leader palestinien qui, pour l'occasion, n'a pas quitté son célèbre keffieh à damier noir et blanc. Fidel Castro, le président cubain et ancien compagnon de route de Che Guevara, l'ami de la veuve Daniel Mitterrand, a quant à lui lâché son cigare avant de rentrer dans la cathédrale. Tous sont morts aujourd'hui. Jacques Chirac, le président en exercice, est un des derniers à arriver. Accompagné, il faut le dire, par quelques sifflets lancés par des admirateurs de l'ancien président. Ces derniers sont mauvais perdants car quelques jours plus tôt, Chirac a rendu un vibrant hommage à la télévision à son prédécesseur. Comme Mitterrand l'avait souhaité, le pays ne s'est pas arrêté de vivre, mais les hommages ont été nombreux un peu partout dans l'Hexagone. Valéry Giscard d'Estaing est là, lui aussi, même si les deux hommes ne s'appréciaient guère. Il faut dire les choses clairement. En fait, ils ne pouvaient pas se voir en peinture. Durant leur carrière politique, ils se sont rendus coup pour coup. Mais les deux hommes, partageant le statut de président retraité, s'étaient rapprochés sur la fin de la vie de Mitterrand. Si la mort ne les avait pas séparés, peut-être auraient-ils été jusqu'à monter un club ou une association pour savonner la planche de leur successeur? Qui sait? Dans la cathédrale de Paris, ce 11 janvier 1996, il fait toujours aussi froid en cette fin de matinée et les invités n'ont pas quitté leur manteau. Tiens, survolons l'assemblée et continuons à faire le tour des présentations. Certaines têtes couronnées ont fait le déplacement, à l'image de Charles III qui a traversé la Manche. Bon, à l'époque, il n'est pas encore roi d'Angleterre, tout juste prince de Galles. Il est là pour représenter sa mère, Élisabeth II. Et à voir sa tête, il n'est pas très heureux d'être là. Oh, sans doute préférerait-il être avec Camilla dans un petit château écossais ou sur une île paradisiaque. Le prince régné de Monaco a lui aussi fait le déplacement en voisin pour rendre hommage au dernier monarque républicain. Et puis, à côté de toute cette tête couronnée, il y a là toute sa famille politique, celle qu'on ne choisit pas vraiment, comme dans la vraie vie, celle d'où peuvent partir les coups les plus terribles. Et parmi les présents, il y a le successeur désigné de Mitterrand, celui qui a représenté le Parti socialiste aux dernières élections présidentielles. Lionel Jospin. À peine s'est-il déclaré candidat qu'il prend ses distances avec Mitterrand, qui est pourtant encore en poste à l'Élysée. Mais à l'époque, la cote de popularité de Mitterrand est au plus bas. Alors, pourquoi s'encombrer de cet héritage? À la télévision, Jospin affirme clairement qu'il prend ses distances avec la politique du président. Et c'est un bon calcul. Pas certain, car il sera battu aux élections. On peut donc s'étonner de le retrouver là, à cet instant, après avoir été si dur envers celui qui restera comme le premier président de gauche de la Ve République. Le deuil fait parfois réfléchir. D'ailleurs, quand il sera nommé Premier ministre en 1997, Lionel Jospin posera pour les photographes avec un portrait de Mitterrand sur son bureau. À 500 km de là, à Jarnac, une bourrasque fait s'envoler le drapeau qui recouvre le cercueil présidentiel. Personne n'ose bouger. Les secondes semblent durer une éternité. Aucun garde républicain ne prend l'initiative de remettre le drapeau en place. Ce sont alors Jean-Christophe, son fils, et Daniel, son épouse, qui s'y collent. Mitterrand, qui était si mystique, envoie-t-il un signal de là-haut? Il l'avait dit quelques mois plus tôt, le 31 décembre 1994, sur les coups de 20h lors de sa dernière allocution présidentielle. « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. » Un premier signe, donc. Allez savoir. Ce jour-là, la France entière découvre réunie les deux familles de François Mitterrand. La famille officielle, Daniel, son épouse, ses deux enfants, Jean-Christophe et Gilbert, ses petits-enfants et puis, bien évidemment, son beau-frère, le comédien Rojane, alias le commissaire Navarro, que l'on peut découvrir à cette époque sur TF1 le jeudi soir. Et puis, il y a l'autre famille, celle qui intrigue. Celle dont les Français ont appris l'existence quelques mois plus tôt quand Paris Match dévoilait en une photo volée du président sortant d'un restaurant avec une jeune femme pas encore majeure. Cette jeune femme, ou jeune fille, devrais-je dire, c'est Mazarine. Et Mazarine, eh bien, c'est sa fille. Qu'ont-ils mangé ce jour-là? Ah, la légende ne le dit pas. Il faudra interroger Mazarine. Cette photo faussement volée, faut le dire tout net, soulage le président. Il laisse faire la presse afin que ses concitoyens sachent qu'il est aussi le père d'une jeune fille. Il en est très fier d'ailleurs. Et puis il y a sa mère, la discrète Anne Pinjot, historienne de l'art qui travaille au musée d'Orsay. Ils habitent ensemble au quotidien et ça lui suffit. Ils se sont rencontrés quand elle était adolescente. Elle était la fille d'un couple d'amis. Puis ils se sont aimés lorsqu'elle est devenue adulte. C'est dans un hôtel avec vue sur la Loire qu'ils ont passé leur première nuit ensemble. Mitterrand pouvait être romantique. Mazarine, le fruit de leur amour, est née le 18 décembre 1974. Anne s'est faite à l'idée de vivre dans l'ombre, d'être la femme cachée, mais elle veut devenir mère. Mitterrand le sait. Elle a été claire avec lui. S'il ne veut pas d'enfant avec elle, elle le quittera. Alors, Alors Mitterrand s'est exécuté. Pour la petite histoire, il n'assiste pas à la naissance de cette fille longtemps cachée. Il ne peut pas se montrer dans une clinique avec une femme qui n'est pas la sienne. Ça ferait scandale et pourrait nuire à sa carrière politique. Il ne reconnaîtra officiellement Mazarine que 10 ans plus tard. Si Mitterrand est connu pour être un coureur de jupons, Anne a été le grand amour de sa vie. Malgré leur écart d'âge de 27 ans, ils resteront proches jusqu'au dernier souffle de la vie du vieil homme. C'est elle qui lui tiendra la main jusqu'au dernier moment. Avant ce 11 janvier 1996, jour des obsèques, jamais Gilbert Mitterrand n'a rencontré sa demi-sœur. Il sait qu'elle existe, mais il ne l'a jamais vue. François Mitterrand l'a en revanche présentée quelques mois plus tôt, lors d'un déjeuner dans un restaurant, à Jean-Christophe, son autre fils. Protecteurs, les deux fils de Daniel et François entourent cette jeune fille de 21 ans devant le cercueil de leur père. Anne Pinjot est légèrement en retrait, soutenant sa fille. À Jarnac, dans l'assistance, il y a aussi une inconnue sur laquelle nous devons nous attarder quelques instants. On va la prénommer Claire. C'est sous ce pseudonyme qu'elle a révélé son histoire à une journaliste du Monde en 2021. On le sait, Mitterrand est un homme de secret. C'est aussi un homme à femme, autrement dit un coureur de jupons. Il a plusieurs clans qu'il côtoie simultanément et qui ne se croisent jamais. Parmi ses intimes, il y a donc Claire. Claire, c'est sa dernière histoire d'amour. Et pour une fois, c'est lui le séducteur qui s'est fait draguer. Draguer est bien le terme qui convient car sa prétendante, qui n'a pas froid aux yeux, est jeune. Très jeune même. Elle pourrait être la sœur aînée de Mazarine, dont elle ne connaît pas l'existence. Hein, quand je vous dis que Mitterrand cloisonne très bien sa vie. Mais qui est donc Claire, l'ultime amoureuse du président? Je vous présentais donc cette jeune Claire, inconnue de tous, et qui a fait vivre à Anne Pinjot ce qu'elle-même avait fait endurer à Daniel Mitterrand 30 ans plus tôt. Mais qui est donc cette étudiante? Comme Mitterrand l'a fait des années bien avant elle, Claire est une jeune provinciale élevée dans une famille de droite qui monte à Paris faire ses études. Contrairement à Mitterrand, elle vire à gauche beaucoup plus rapidement que ne l'a fait le président de la République en son temps. À peine est-elle arrivée dans la capitale, elle prend sa carte au Parti Socialiste. Elle n'a qu'un rêve. Rencontrer le président. Son président. Alors, avec un ami, ils font souvent le pied de grue devant la rue de Bièvre, où habitent les Mitterrands. La rue est bien gardée. Mais un jour, elle arrive à déjouer la vigilance des forces de l'ordre et à interpeller le président. « Monsieur le Président, Monsieur le Président, je souhaiterais juste qu'on puisse échanger quelques mots. » Ce qu'elle veut surtout, c'est avoir une vraie discussion avec lui, car il la fascine. Ah, ce ne sera pas simple, mais à force de persévérance, elle arrive à ses fins. Entre 1984 et 1988, ils se croisent une quinzaine de fois, parfois à Paris, parfois en déplacement. Mais ce n'est qu'après sa réélection de 1988 que leur histoire débute. Elle l'invite à déjeuner chez elle, en tête-à-tête, dans son petit appartement mansardé. Après le repas, un repas d'étudiant, viande grillée, haricots verts en boîte et danette, il s'assoit sur le canapé. Mitterrand l'embrasse, puis il s'en va. C'est rare, mais à cet instant, il est sans doute troublé. Comment un homme comme lui, qui a déjà plus de 70 ans, peut intéresser une personne aussi jeune? Mitterrand descend l'escalier tout guilleré. L'espace d'un instant, il oublie son cancer et son âge. Dans sa tête, il a 20 ans. Mais l'homme d'État a 50 ans de plus que Claire. Il pourrait être son grand-père. Elle va l'aimer. Lui va la désirer autant qu'il le pourra. Il n'est plus aussi vigoureux qu'il le souhaiterait et ça l'agace. Son corps lui joue des tours. Et le cancer qu'on lui a diagnostiqué en octobre 1981 est en train de gagner la partie. Les traitements qu'il suit jouent sur sa libido et ça l'exaspère. Mais est-ce le plus important? À l'époque, on avait estimé à 3 ans son espérance de vie. Cela fait 15 ans qu'il vit avec sa maladie. Pourtant, toutes ces années, il lui est même arrivé d'oublier qu'il vivait avec ce cancer en lui. Seule une poignée d'intimes était au courant. Durant tout son premier mandat, il a fait publier de faux bulletins de santé pour cacher la vérité. Il la cachera donc aussi à sa dulcinée, du moins tant qu'il le pourra. Le 16 mai 1995, sur les coups de midi, c'est avec Claire qu'il partage son dernier déjeuner à l'Élysée avant de laisser sa place au nouveau locataire, Jacques Chirac. Le château est vide. Les déménageurs sont partis avec les derniers cartons. Seul Baltic, son chien, se promène encore dans le palais désert. Mais le repas ne se déroule pas comme l'avait prévu le vieil homme. Alors que le président avait envisagé un tête-à-tête romantique avec la jeune demoiselle, Danielle, son épouse officielle, s'invite à table. On imagine l'ambiance. La première dame de France ignore complètement la jeune fille et fait comme si elle n'était pas là. Un vent glacial parcourt le château. Il faut dire que Danielle Mitterrand connaît la nature de la relation qu'entretient son mari avec cette demoiselle. On peut donc comprendre son attitude. Durant le repas, Danielle évoque avec François les 14 années passées au palais de l'Élysée, puis s'en va. Les deux tourtereaux peuvent enfin profiter d'un dernier moment ensemble, ici, sous les ors de la République. Après cet ultime repas, Claire aura un dernier échange téléphonique avec Mitterrand le 3 janvier 1996. Il sera bref, très bref, à peine 3 minutes. L'ancien président n'ayant plus assez de force pour parler, ni même pour tenir le téléphone dans ses mains. Il s'éteint quelques jours plus tard. Claire aura le droit de se recueillir quelques instants devant le corps de son mentor. Le 9 janvier 1996, à 9h30, Pierre Tourlier, le chauffeur du président depuis 25 ans, confident, celui qui connaît le mieux la vie privée de Mitterrand, l'a conduit au 3e étage de l'immeuble où il repose. Il connaît la relation qui les unissait, contrairement aux autres, qui continuent de la prendre pour sa petite fille ou une simple étudiante. Car bien sûr, leur relation devait rester secrète. D'ailleurs, Michel Charras, l'ancien mystérieux ministre du budget, avait menacé la jeune fille, sans que le président ne soit au courant, et lui avait dit, en lui faisant un signe avec son pouce le long de son cou, « Si tu parles, tu meurs. » Ouais, sympathique personnage. De toute façon, la pauvre n'avait personne à qui se confier. Pas même sa meilleure amie, seule au courant et qui, suite à cette révélation, avait pris ses distances. 2 jours plus tard, Claire est à Jarnac, seule, anonyme, au cimetière, pour dire au revoir à Mitterrand. Dans la foule, elle n'a personne à ses côtés pour partager sa douleur. La dépouille de l'ancien président s'est envolée le matin même à 8h45 de l'aéroport militaire de Villacoublay, après avoir reçu les hommages militaires. L'avion atterrit ensuite à Cognac, où l'attend la garde républicaine qui l'escorte par la route jusqu'à Jarnac. Avant de pénétrer dans l'église, dans son cercueil, Mitterrand fait une dernière balade dans les rues de la ville, qu'il a vu pousser son premier cri. Il s'arrête notamment au 22 rue Abel Guy, devant sa maison natale. Il y était très attaché. Sans doute les souvenirs émus de son enfance. Un jour, il dira « J'ai souvent regretté de ne pouvoir garder davantage de liens avec cette Charente, avec le Jarnac de mon enfance. Ma vie politique m'a conduit vers un territoire différent, auquel j'ai voué beaucoup d'attachement. Pourtant, je n'ai jamais vraiment quitté Jarnac. » Je reviens dans la maison où je suis né, dans la maison où mes grands-parents, mes parents ont vécu et dans laquelle une de mes sœurs vit. La maison est depuis devenue un musée. Baltic est aussi présent, Jarnac. Ah, Baltic. Baltic, c'est le nom de la chienne de Mitterrand. Un labrador noir, rendu célèbre par Renaud, qui lui a consacré une chanson. Mitterrand et Baltic étaient inséparables. Il n'était pas concevable qu'elle ne l'accompagne pas pour son dernier voyage. Ce 11 janvier 1996, Baltic, qui n'a pas le droit de rentrer dans l'église, est tenu en laisse par Michel Charras devant l'entrée de l'édifice. L'ancien ministre refuse de mettre un pied dans une église. Il déteste toutes ces bondieuseries. Tous deux attendent patiemment la fin de la cérémonie, dehors. Quelques années plus tôt, en 1991, c'est à son maître que Renaud avait déjà consacré une première chanson dans son album « Le marchand de cailloux » et sobrement intitulée « Tonton ». Tonton, c'est le surnom qu'avait donné à Mitterrand Pierre, son chauffeur, son intime. Celui qui le conduisait à ses rendez-vous diplomatiques et chez ses maîtresses. Pierre, c'est donc celui qui permet à Claire de voir Mitterrand sur son lit de mort. Tonton, c'est donc un surnom très affectueux qu'emploie Renaud pour désigner son président. On peut s'étonner qu'un chanteur comme lui, qui dans les années 1990 affiche ouvertement ses convictions humanistes et d'homme très ancré à gauche, l'ait ainsi soutenu. Mais attention, pas à n'importe quel prix. D'ailleurs, le chanteur a mis les choses au point. Renaud a toujours eu une tendresse particulière pour Mitterrand, pour l'homme essentiellement. Même s'il l'a soutenu en participant notamment à un concert de campagne en 1988, il n'hésite pas à le critiquer aussi. Oui, j'aime ce bonhomme. Je le revendique. Je l'assume malgré les critiques de Bedos qui considèrent que c'est de l'Œdipe mal digéré. Et je dois reconnaître qu'il n'a pas tout à fait tort. Mitterrand a quelque chose de mon papa dans la physionomie. Bref, c'est vrai qu'il m'arrive de le défendre quand on l'attaque. Que ce soit des gens de gauche ou, à plus forte raison, des gens de droite. Pour cela, je mets en avant son immense culture, son charisme, son sens de l'histoire, son humour. Oui.